Nous accueillons tout de suite Marc Jolivet, Franck Laval. Marc Jolivet, qui a même un stand sur le salon. Alors ça, je viens de le découvrir. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, féminin bio. Le féminin qui change la vie. Fréquence terre, fréquence terre.
Voilà, donc c'est un grand bienvenue de Marc Jolivet. Et Franck Laval aussi avec nous. Vous êtes avocat, Franck?
Avocat.
Non, vous n'êtes pas avocat, mais alors vous avez une association qui regroupe des avocats.
Voilà, c'est ça, je fais bosser les avocats et les juristes, il y en a dans la salle.
D'accord, très bien. Et vous êtes le président de l'association Écologie Sans Frontières.
Exact.
Vous allez nous expliquer tout à l'heure, on va faire un petit mix. Déjà, on va se présenter et puis voir comment vous vous êtes rencontrés. Pourquoi est-ce que là, vous êtes l'un à côté de l'autre sur ce plateau? On va parler de Rire pour la planète. Vous êtes président, Marc Jolivet, de cette association.
Absolument.
Et puis, Écologie Sans Frontières, vous dites que vous êtes à l'origine du Grenelle dans l'environnement. On va y revenir dans un
Franck
instant.
Franck Laval, pas moi. Hein.
Franck Laval, oui, Franck Laval.
Oui. Vous êtes, on le dit un peu moins maintenant.
Donc alors, on va parler de cette association Rire pour la planète. Alors, on va parler aussi de votre engagement, Marc Jolivet, vous avez un stand ici. Vous avez un sweatshirt de Sea Shepherd, donc vous êtes très engagé dans la cause écolo.
J'aime ma planète. Oui, j'aime vivre, j'aime ma planète, j'aime me marrer. Donc ça me paraît normal d'être ici.
D'accord, et vous étiez déjà venu sur ce salon.
Oui.
Vous avez eu l'occasion de faire un petit tour en arrivant?
Pas encore. Là, non, je viens juste d'arriver, on a acheté une bouteille de vin bio. Oui. Pour commencer à déguster, que les gens viennent, vous voyez, que ce soit convivial. Puis je retrouve mon ami Franck Laval.
Alors qu'est-ce qui vous unit l'un et l'autre?
Parce que, bon, ça fait 20 ans, Franck. Moi, je suis, après il dira, moi, j'ai toute confiance en Franck. Je le vois évoluer depuis 20, 25 ans. Et donc, toutes les actions que j'entreprends, c'est avec l'aval de Franck. Car je sais qu'il est... Il est totalement investi là-dedans et je partage très souvent son point de vue. Donc j'ai toute confiance en Franck, c'est pour ça qu'il est le trésorier de l'association Rire pour la planète.
Voilà, c'est ça, c'est que mutuellement vous avez des postes, hein, vice-président, c'est pour ça que je me suis
président d'honneur.
Alors président d'honneur.
On a beaucoup de postes, on a beaucoup de médailles et Marc est président d'honneur d'Écologie Sans Frontières.
Alors, attendez,
nos excès.
Je vais demander à quelqu'un de redresser votre micro, ou alors si vous voulez le faire. La cellule est juste devant pour qu'on vous entende un petit peu mieux. Ah voilà, excusez-nous pour ce petit aléa technique, mais on vous entendra mieux si le micro est comme ça.
Chanteur de crooner des années 50.
Alors pourquoi est-ce que vous avez voulu l'un et l'autre montrer votre image ensemble? Est-ce que l'écologie pour vous, Franck Laval, a besoin d'un peu d'humour, qu'on la tourne en dérision?
Elle a besoin que d'humour. Parce que si on commence à faire peur aux gens, si on dramatise tout, l'actualité est là pour ça. On ne fait pas adhérer, les gens n'adhèrent pas, ils n'ont pas envie, si on ne donne pas envie, ils n'ont pas envie de changer de comportement, etc. Donc tout ça c'est un enchaînement qui repose sur l'envie, le désir, donc l'humour.
Est-ce que vous le pratiquez avec les avocats qui constituent votre association?
Oui, nos avocats rigolent moins, mais on ne désespère pas.
Donc Marc Jolivet est là un petit peu pour rehausser le niveau, c'est ça, pour apporter.
Oui. Rehausser le niveau, le mot est très très bon. Ouais.
Alors Marc Jolivet, vous avez un peu parcouru quand même un petit peu en long, en large, en travers les milieux militants écologistes.
Oui.
Vous étiez très proche des Verts pendant un temps.
Absolument.
Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un clash.
C'est pas un clash. On va faire très court. 1976, ma première chanson, Le Père Noël écolo chez Michel Drucker. Voilà.
Oui.
Et donc ça, c'était l'engagement citoyen, la prise de conscience. Je dis comme les animaux, vous savez, qui sentent le danger avant le tremblement de terre. Les chiens japonais qui ont fui le tsunami avant, ils sont partis, ils se sont envolés. Ce sont des chiens volants, parce que ça, on n'a pas en France. Et les Japonais, ils ont ça. Donc, mais ça, c'est... Je vous raconterai les chiens japonais volants.
Il va falloir vous expliquer, oui, parce
donc,
que...
l'engagement politique a commencé chez les Verts en 84, oui, et je me suis présenté à des élections en 86, au 89, je ne sais plus.
89.
Dans le 5e arrondissement, j'ai fait le meilleur score en France sur le premier tour. J'ai failli être élu. On ne saura jamais puisque j'ai jamais pu compter mes voix. Mais toujours est-il que ceux qui m'ont fait le plus la gueule de mon meilleur score, c'était les Verts.
Alors vous étiez donc, quoi,
j'ai décidé de quitter les...
Mais non, ou avec eux.
J'avais l'étiquette verte.
Bon alors, qu'est-ce qui est pourquoi comment vous expliquez ça?
C'est
comme Coluche qui se présentait aux élections, c'est le même truc.
Alors ça n'avait rien à voir.
Alors c'est comment vous expliquez avec les verts qui vous dénigrent tout à coup?
Pas ça, il y avait une vraie jalousie. Ça a été une incompréhension, une jalousie.
Et pourtant vous mettiez leur programme.
Mais vous fréquentez les verts?
Bah pas trop, à vrai dire.
Ben voilà. Mais vous avez donné la... Voilà, vous avez tout compris.
Mais alors, bon, qu'est-ce qui vous déplaît dans leur programme? Qu'est-ce qui vous a déplu pour que...
Mais c'est pas dans le programme, c'est une réalité.
C'est une mentalité, voilà. C'est quoi?
Oui. Et attention, soyons honnêtes, c'est pas les verts, c'est certains verts.
D'accord.
Ou comme j'ai souvent dit, c'est la tête souvent qui est, vous voyez, qui marche pas bien. Après, les gens, les braves gens qui sont verts, souvent, je les rencontre, sont des gens, avec des militants, quoi.
Alors, quel repère on peut donner aux auditeurs qui nous écoutent
Voter vert à chaque élection. On peut voter pour le moins pire. C'est le meilleur repère.
Vous, les
verts sont... Non, il faudrait que les verts disparaissent, mais je crois que ça y est, c'est en train de se faire. Europe écologie et écologie sans frontières est en train d'avancer, donc tout ça va se diluer. C'est normal.
Se diluer,
moi-même, je vais me diluer. Regardez, je commence à me diluer.
Voilà, et on va faire de la naturopathie dans un instant.
C'est exact, ce qu'a dit Marc, c'est exactement ce qui nous relie et ce qui relie tout un tas de gens qui en ont soupé des partis groupusculaires, staliniens, etc. Nous, on veut de l'écologie partout. Et certains verts, à l'époque, je fais court, certains verts voulaient rester entre eux, partis, nous avons la vérité, le dogmatisme, etc. Ça, c'est un truc qui insupporte des libertaires comme nous. Et voilà la différence idéologique. Maintenant, le problème, il est malheureusement beaucoup plus fort.
Vous avez peut-être dit quelque chose qui est vrai, c'est le distinguo entre vert, c'est-à-dire la politique peut-être, et l'écologie, qui est du militantisme, qui n'a pas forcément besoin d'être affilié à un parti politique, c'est ça?
On veut de l'écologie partout, on en veut dans les entreprises, on est là quand même pour le constater. On le veut sans greenwashing, mais on le veut quand même. On le veut dans les partis politiques, on le veut dans les religions, on va même voir les religions.
Alors Franck Laval,
foulards bio.
Vous revendiquez un petit peu la naissance du Grenelle de l'environnement.
Alors le Grenelle de l'environnement, ça, c'est autre chose. Alors on a un côté radical, c'est-à-dire on travaille avec Sea Shepherd, dont vous parliez tout à l'heure. On a attaqué l'État il y a une dizaine d'années déjà sur la pollution de l'air, attaqué en justice. On a essayé de faire condamner des ministres. Donc ça, c'est une partie un petit peu musclée juridiquement. Et puis en même temps, on essaie d'être propositionnel. On cherche des solutions pour tout le monde. Et nous, on a cherché avec nos avocats des solutions juridiques, des solutions institutionnelles. Et puis il y a 5-6 ans, notre groupe d'avocats s'est réuni, a cogité, et on s'est dit, changeons le dialogue social en un dialogue social et environnemental, puisque la France est quand même tournée entre le dialogue social avec les patrons et les salariés, et rajoutons la notion d'environnement là-dedans. Et d'où l'idée de faire un Grenelle pour démarrer ce nouveau dialogue social et environnemental. Le Grenelle étant l'acte 1 d'une nouvelle forme de relation institutionnelle. Donc on a conceptualisé ce Grenelle. Et puis c'était au moment des élections présidentielles, on l'a pris sous le bras et on est allé voir tous les candidats. J'ai été voir Ségolène Royal, Sarkozy, Bayrou, et voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben oui, pourquoi pas. Bon, ben voilà. Et de fil en aiguille, on est arrivé à faire ce Grenelle. Après, ce qui est devenu le Grenelle, c'est autre chose. Mais l'idée du Grenelle, et l'idée, elle est assez simple, elle reprend ce qu'on disait tout à l'heure.
Ça ressemble quand même au pacte écologique, ce que vous décrivez.
En tous les cas, la démarche, en tous les cas. C'était parallèle et ça c'est bien, ça a été complémentaire. Mais l'idée générale, c'est toujours pareil, c'est mettre autour de la table des gens qui ne parlent pas de l'écologie, forcément. C'est ça l'idée. C'est écologiser la société et non pas rester entre écolos. Voilà.
Donc les actions que vous menez aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous défendez aujourd'hui à part la pollution de l'air? Est-ce qu'il y a vraiment... comment est-ce qu'on peut défendre déjà la pollution de l'air? Peut-être c'est une première question.
Enfin non, on est plutôt contre la pollution de l'air.
Comment on peut la... oui, mais en même temps, c'est défendre sa qualité. Ce que je voulais dire.
Défendre la pollution, enfin attaquer la pollution de l'air, c'est s'occuper des questions de santé. Les questions de santé environnement sont très importantes et on le voit sur ce salon. Les questions de santé touchent beaucoup les gens et c'est en même temps la santé de la planète. La pollution, c'est très important, c'est la santé des gens et c'est en même temps la santé de la planète, le gaz à effet de serre, réchauffement climatique. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est un sujet central. Bon, mais il y a d'autres pollutions, les pollutions dues aux pesticides, travail sur la pollution de l'eau, etc. Mais enfin, bon, chaque association a ses spécialités. La défense de la biodiversité, on le voit avec des organisations comme Greenpeace ou Sea Shepherd, ou même France Nature Nature Environnement, qui ont leur stand à côté d'ici, chacun un peu sa spécialité. L'idée, c'est d'être aussi un peu généraliste et trouver chacun des solutions. Alors, je vous disais institutionnelles, mais ça peut être des solutions dans la consommation, des solutions dans le domaine culturel, voilà. Si on amène tous nos solutions, au final, peut-être qu'on arrivera...
Alors oui, voilà. Marc Jolivet, vous, votre...
Vous avez compris pourquoi j'adhère et pourquoi je suis fier d'être son ami.
Ben, je commence à
voilà,
comprendre.
Hein, sérieusement, c'est d'une clarté. Ce que j'aime chez Franck, c'est que c'est toujours excessivement clair, excessivement ouvert, excessivement concret. Depuis toujours, Franck fait des actions concrètes. Attaquer des ministres, poser les vrais problèmes, oublier ce vieux débat gauche-droite, être totalement citoyen. Et c'est pour ça que l'association Rire pour la planète est venue, je dirais, c'est à cause de Franck, de me dire, mais il a tellement d'idées, il fait tellement de choses, comment pourrais-je être à côté, faire quelque chose de complémentaire qui pourrait être utile ou s'additionner.
Alors voilà, donc... Vous avez trouvé un moyen, donc vous avez dit, Franck Laval, qu'il y avait le côté culturel qui était représenté ici par Marc Jolivet. Donc vous, c'est votre façon d'être militant, c'est-à-dire de...
J'aime pas le mot militant, c'est pas un mot qui me convient. Non, militer, c'est...
C'est quoi alors?
Quand José Bové rejoint les communistes, je m'en vais. Je quitte la Confédération paysanne, donc un militant ne le fait pas. Il milite, il reste pour essayer de...
Vous êtes quand même très inclus alors, parce que pour moi, être militant, c'est aussi porter des actions... Très concrète.
Le terme d'amoureux est plus... je suis un clown amoureux de sa planète.
D'accord.
Ça, c'est la vérité.
Alors, et vous le montrez donc avec cette association que vous avez créée en quelle année?
Deux ans.
Oui.
Elle a deux ans. Donc, elle s'appelle Rire pour la planète, c'est ça?
Voilà.
Vous en êtes le principal acteur?
Oui, parce qu'on travaille dans les écoles. On a donc la chance d'avoir comme soutien Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot, Franck Laval, comme je l'ai dit, est le trésorier. Notre ami Alexandre Farot est donc le secrétaire, et nos deux parrains, c'est Luc Besson et Liane Folly, entre autres. Et puis après Jean-Paul Jaude, des marins.
C'est intéressant, voilà. Quand on était allé voir Nicolas Hulot, c'est pas un secret qu'il n'est pas réputé pour être un grand comique.
Oui,
d'accord, on peut le dire.
C'est pas son affaire.
Il est notre ami, donc on peut le dire. Il nous a tout de suite dit, tu te souviens, il a dit, mais rien ne se fera si, dans une phrase ou dans deux phrases, il n'y a pas une dose d'humour. Aucun message ne peut passer. Alors le fait que Hulot nous dise ça nous a vraiment réconfortés. On s'est dit, lui qui n'est pas un rigolo, lui qui annonce sans arrêt des choses qui ne sont pas très engageantes, malheureusement.
Il ne le met pas très en avant. Hein.
Non, dans son film, on ne peut pas dire que c'était un film comique. Ça peut pas être dit, mais
il va s'attendre
qu'il soit président, vous verrez que ça va changer. Parce que Franck sera son conseiller, et moi je serai l'éminence grise. Il fera que des blagues. Il fera que des blagues.
Ça, il nous l'a dit. Hein.
Ouais. Bon, voilà, donc ça c'est fixé. Donc on va revenir un petit peu sur Rire pour la planète. Donc le principe, c'est... Si on retrouve sur votre site, votre site internet, si je m'en tiens à ça, c'est qu'on a le droit de vous solliciter, vous Marc Jolivet, pour venir dans une école.
Oui.
Et qu'est-ce que vous faites avec les enfants?
Eh bien, nous leur apprenons à inventer. L'idée, c'est d'innover, c'est d'inventer. Je peux vous dire, on a démarré avec Franck il y a deux ans. Personne ne voulait de nous, les écoles. Enfin, si, c'est-à-dire que c'est plus complexe que ça.
Les administrations voulaient
pas de nous. Une maîtresse, la première maîtresse, elle dit « Formidable, venez !» Alors bon, on prend rendez-vous, elle dit « Oh là là, j'ai eu la directrice, c'est plus compliqué, faut demander aux parents, faut etc. etc. » C'était une, deux, trois écoles, et d'ailleurs, j'allais laisser tomber. Et puis, c'est venu de l'Ardèche. Il y a une école en Ardèche qui a dit « Nous, ça nous intéresse, on va travailler avec vous ». Et donc, nous avons fait avec eux le premier spectacle l'année dernière. Et ça a enchaîné, on a travaillé. Donc, je travaille avec les enfants, ils innovent, ils inventent. Et après, je les mets sur scène, je les aide et nous faisons ensemble des spectacles.
C'est bénévole?
Bien sûr, oui, bien sûr. C'est
donc,
bénévole.
Ce sont des spectacles faits bénévolement. On va en écouter un extrait tout de suite.
D'accord.
Pourquoi tu pleures? Mais oui, je crie, rendez-vous compte. Cet animal,
c'était pas ça.
Il y a encore...
Le mois dernier, un sondage a été mené à l'échelle mondiale par l'ONU. La question était, veuillez donner honnêtement votre opinion sur l'éventuelle solution à la pénurie de nourriture dans le reste du monde. En Afrique, personne n'a compris le sens du mot nourriture. En Europe de l'Est, personne n'a compris le sens du mot honnêtement. du mot solution. Et aux États-Unis, personne n'a compris le sens du mot le reste du monde.
Donc voilà, c'était un extrait d'un spectacle que vous avez préparé avec des enfants dans une école. C'est un spectacle qui a eu lieu où, celui-là?
Alors l'année dernière, c'était à Villers-Guillers-Grange, en Ardèche.
C'était donc l'école ardéchoise, ça.
Voilà, et cette année, alors ça, on a progressé, puisqu'on a enchaîné à Malemort, en Provence. Il y avait deux classes l'année dernière, et le maire a tapé sur scène dans ma main en me disant « Monsieur Jolivet, l'année prochaine, nous faisons un festival. » Et donc, je vous l'annonce, 27, 28, 29 mai, sur 3 jours à Malemort en Provence, on va faire un festival. Il y a 8 classes, et j'étais avec eux il y a quelques jours. Ils ont inventé une machine à recycler le temps. Alors, je ne l'ai pas vue encore. Alors, je vous raconterai, elle sera filmée. Bien sûr, vous le verrez après le festival. Et donc là, on va faire sur 3 jours. Il y a les enfants. Le lendemain, il y a des parrains qui viennent. On va faire du sport. Il y aura un groupe vocal de la région. Et le soir, il y aura l'Orchestre Symphonique Lyonnais, dirigé par Philippe Fournier. On sera en plein air. Et c'est un petit garçon de 5 ans qui va diriger l'Orchestre Symphonique. Et après, nous chantons avec les enfants notre hymne « Rire pour la planète ». Enfin, voilà, c'est un spectacle. Et dimanche, il y a le film avec Jean-Paul Jaude. Eliane Folly viendra inaugurer un jardin méditerranéen. Et chaque année, donc, nous plantons un jardin bio avec des légumes pour que tout ça, eh bien, avance.
Ah oui, c'est très complet.
Oui, on essaye. Enfin, c'est la première année. Donc, nous vous invitons.
D'accord. Alors, comment vous travaillez avec les enfants? Vous prenez contact avec eux? D'abord, je suppose que les écoles viennent vous solliciter. C'est un acte qui vient de qui, au départ?
Mais c'est-à-dire que ça s'est passé par Internet. On a mis les premières images, là, de ce que vous venez d'enregistrer de l'année dernière. Du coup, les gens sont allés voir, et on a eu l'école de Malemort, la ville de Malemort, qui nous a dit, on a envie. Et puis la ville de Malemort qui nous a dit, on refait cette année, on fait le festival. Et là, on vient de signer à nouveau une école en Ardèche. Donc on en est à 5 écoles, ce qui est très peu. Mais en 2 ans, c'est déjà pas mal, c'est le début.
Et donc, vous intervenez à quel moment? Vous les aidez à préparer un spectacle?
Les enfants, je rentre dans la classe. D'abord, je commence tout de suite en disant « Bonjour, je suis votre nouveau directeur. À partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais de devoirs le soir à la maison. » « Ouais !» Deuxième chose, plus de notes. Vous aurez tous 20 tout le temps. « Ouais !» Troisième chose, c'est la mauvaise nouvelle. Je suis un humoriste, c'est une blague. « Oh !» Alors, ça m'amuse beaucoup. Et je vous raconte l'anecdote. Il y avait un petit bout de chou de 5... Ah, il avait 6 ans. C'était en... CE2. Je rentre dans la classe et alors il me regarde et il fait comme ça. Il lève le doigt très fort, puis insistant, ça dure 1-2 minutes. Alors au bout de 2 minutes, je lui dis « Oui, vous voulez quelque chose, jeune homme ?»« Oui. Il est où, Marc Jolivet ?» Et là, j'ai éclaté de rire. Alors, j'ai mis ma capuche, j'ai fait « Rire pour la planète, c'est du soleil dans la tête, ça donne des idées. » Puis après, je suis revenu et je lui ai dit « Je me mets à ta place, t'as jamais entendu parler de moi. » On te dit « Tu vas voir, il y a un clown, il va venir. » Tu te dis « C'est pas le vieux monsieur chauve, rond, comme ça, c'est pas possible. On m'a fait rêver sur Marc Jolivet. » Et j'ai trouvé ça génial, ce « Il est où, Marc Jolivet ?» Voilà, c'était très joli.
Qui écrit les textes, ce qu'on a entendu par exemple? Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Est-ce que c'est une participation?
Dans celui-là, non, là sont les enfants, ça dépend. On a le DVD, Rire c'est bon pour la planète. Donc on leur montre des exemples. On dit voilà, si vous voulez vous inspirer de la brigade anti-pollution, vous vous mettez les casquettes, vous adaptez les sketchs. La machine à recycler le temps, je pense que ça va être une bonne idée et que ça servira pour d'autres écoles après s'il y en a qui n'ont pas d'idée. Mais il y en a qui chantent, il y en a qui ont improvisé un ballet. Là j'ai vu une répétition. Ils font la Durance qui va jusqu'à la mer. Donc les élèves font les vagues et font... C'est magnifique. Accompagnés eux-mêmes, ils s'accompagnent eux-mêmes. Chacun innove, je leur dis, innovez, inventez. C'est vous qui allez trouver autre chose que le nucléaire.
Voilà, c'est ça.
C'est vous qui allez trouver des solutions.
On voit en général, toujours dans des jeunes pousses, ce qu'on n'a pas réussi à faire nous. C'est ça l'objet de la création de votre association?
C'est exactement ça. Moi, c'est en dehors de Franck et de quelques-uns des frères Cohn-Bendit que vraiment j'aime, et de José Bové. Les autres, ils me gavent un peu. Donc, c'est vrai que je préfère travailler avec les enfants. C'est vrai.
Quelle est votre vision si on regarde, il va y avoir des élections bientôt.
Oui.
On ne peut pas ne pas laisser de côté cette chose, ce concept politique. Est-ce qu'il y a de bons défenseurs dans les candidats, en tous les cas, qui se dessinent? de l'environnement, de l'écologie.
Parlez Franck, je vais vous faire très court. Moi, je dis qu'il est l'heure d'une dictature écologiste. Il y a un temps pour chaque chose. La démocratie, ça va bien. C'est terminé. Ou on va avoir une dictature fasciste ou une dictature écologiste. Préférons la dictature écologiste. Votez pour moi le jour où je me présenterai et vos enfants seront sauvés. Je te laisse.
Donc, vous avez quelque chose à ajouter, Marc Laval?
C'est un scoop. Quoi ajouter?
Alors, il y a dans vos spectacles...
Il a raison.
Arrête.
Mais il a un peu raison. C'est-à-dire que le problème de la démocratie court-termiste d'aujourd'hui fait que les grandes décisions qui sont à prendre pour 30, 40 ans sont impossibles à prendre par les politiques. Ils ne peuvent pas les prendre, sinon ils ne sont pas élus. On est dans une espèce d'entonnoir démocratique.
Qu'est-ce qui coince?
Alors, il y a plein de choses qui coincent, les habitudes, etc., le marketing, tout ce que vous voulez. Mais le fait que on soit sur des échéances très court terme, et c'est difficile de prendre. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un candidat qui est capable de dire « Bonjour, je me présente à vos suffrages, je vous annonce que je vais quadrupler le prix de l'énergie, parce que c'est ce qu'il va falloir faire, vu la rareté et vu l'économie qu'on doit enclencher ». Et vous allez en avoir encore moins. Donc, si vous voulez, ça va être difficile. Il ne sera pas élu. Donc, vous voyez, on a quand même un. Et on sait tous, au fond de nous-mêmes, que c'est ce qui va se passer. Et comme le dit très bien Hulot, il faut anticiper les problèmes parce qu'ils seront plus faciles à affronter que les laisser arriver à leur terme. Voilà. Donc, on est un peu coincé. Mais enfin, en même temps, on reste des démocrates.
Alors, vous qui avez participé très activement à la mise en route du Grenelle, qu'est-ce que vous en pensez finalement au final? C'est-à-dire aujourd'hui, ça a été un grand espoir pour beaucoup de Français qui ont entendu « Ah, ça y est, on s'occupe enfin de la cause écologiste ». Et puis, des choses se sont structurées, des groupes de travail. On s'est dit « Bon, il faut les laisser plancher ». Puis des résultats avec des choses qui ont été annoncées, avec un grand carnet de commandes. Très peu ont été mises en route. Et puis, le peu qui a été mis en route a été en général très vite détricoté.
Le Grenelle, effectivement, l'intérêt, c'est que des gens très très différents étaient autour de la table. C'est ça qui était. On n'était plus entre écolos en train de se dire on a raison, ça faisait 30 ans qu'on se le disait. Là, on était avec nos ennemis héréditaires de la FNSEA, avec qui on a très bien travaillé, avec qui on a fait des compromis. Parce que les écologistes, faire des compromis, c'était quand même pas notre culture non plus. Donc on a tous fait des compromis, on a signé 268 mesures. Bon, et après, la machine parlementaire est entrée en action. Dans une démocratie, encore, pour parler de démocratie, ce sont les parlementaires qui votent les lois, qui édictent les normes. Donc c'est là où ça a commencé à, disons, s'amenuiser. Et puis la crise économique est arrivée, et là, la faute des politiques, pour moi, elle est, au lieu de dire « c'est une chance », c'est le fameux « vive la crise de mon temps » d'il y a 30 ans, « c'est une chance pour passer, changer de paradigme », etc., ils se sont dit « on n'a plus de sous pour faire l'environnement, l'environnement ça suffit, de toute façon ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens », etc. Alors que c'est exactement le contraire, il fallait se dire « il y a une crise, justement, faisons de l'écologie, passons aux énergies renouvelables. La transformation écologique de la société, ça veut dire quoi? Ça veut dire réindustrialisation de certains secteurs. Enfin bon, je vous épargne tout le programme.
C'est intéressant de voir tout ce qui devait être mis en route et qui.
La reconversion industrielle de secteurs entiers qui vont de toute façon disparaître, c'est un vrai challenge. C'est un boulot sur 20 ou 30 ans. Le démantèlement on a proposé qu'Areva devienne le champion du monde du démantèlement, puisqu'on a les meilleurs ingénieurs du monde. Vous rigolez, mais c'est 30 ans de boulot. Oui. C'est un boulot colossal. On a soi-disant les meilleurs ingénieurs. Admettons que nous ayons les meilleurs ingénieurs. Areva peut s'occuper et décrocher les marchés mondiaux, parce qu'il va falloir démanteler maintenant. Ça dure 30 ans. On a 30 ans pour démanteler.
Là, vous êtes persuadé de ça?
Mais est-ce que vous connaissez une commune en France qui va accepter l'implantation d'une nouvelle centrale nucléaire? Vous me la donnez, là, le gars, il va...
Ah j'ai pas encore les noms, mais moment, tout est un petit peu figé. Là, donc,
vous savez, le nucléaire, ça va être très simple.
C'est quoi la vision, oui?
Ça va s'arrêter de fait, parce que les centrales commencent à être âgées. On va les repousser de 10 ans, et plus on les repousse, plus il y a de risques. Et puis un jour, l'ASN va dire, là, il y a trop de risques, il faut fermer. Donc progressivement, elles vont se fermer. Et personne ne va vouloir accepter de nouvelles centrales. Donc forcément, sur le nucléaire, il y a une espèce d'impasse, démocratique du reste, parce que ce sont les citoyens qui ne vont plus vouloir de centrales nucléaires à côté d'eux. Donc voilà,
vous êtes persuadé de ça?
Oui, je le sens, oui. Alors après, les tensions vont être très fortes, parce qu'on va dire, attendez, il y avait un chantage, vous n'avez plus, vous allez vous éclairer à la bougie, toutes ces conneries qu'on entend depuis 30 ans.
C'est qu'on n'est pas encore prêts, finalement.
Les Suédois, ils ne vivent pas à la bougie. Que je sache.
Oui, mais ils ont été peut-être un petit peu plus précautionneux. Ils ont mis les choses en route avant nous.
On a mis tous nos sous dans le même panier depuis 40 ans. Donc la sortie progressive va être très très dure. Financièrement, ça va coûter beaucoup plus cher que les autres. Nucléaire, c'est une toute petite parenthèse dans l'histoire humaine. C'est rien du tout. On va utiliser des déchets qui vont durer des milliers. Le MOX, vous savez, le plutonium qui est en train, enfin le mélange de plutonium,
oui, le mélange plutonium
qui est en train de sortir là du réacteur 3 en ce moment, c'est quand même 100 000 ans. Alors il y en a, ils disent non, c'est 10 000 ans. Bon, faisons leur plaisir, disons 10 000 ans. Non mais 10 000 ans, de radioactivité, ça va coûter une fortune en gestion parce qu'il va falloir gérer ces problèmes-là. Ça coûte. Rien que sur le coup, le nucléaire n'est pas fiable. Alors évidemment, de l'autre côté, vous avez, en même temps, on veut sortir des gaz à effet de serre aussi. Donc le challenge, il est difficile.
Oui, mais alors on accumule le retard quand même.
Et plus on accumule, plus ça va coûter cher, plus ça va être difficile.
Qui sera courageux pour vous, pour mettre tout ça en place?
Politiquement, je ne vois pas aujourd'hui un candidat, si pour reprendre votre question, de candidat capable de dire devant les électeurs, nous allons devoir en sortir et ça va nous coûter très cher.
Alors, je ne crois pas que Nicolas Hulot va
le
dire.
Oui, mais Nicolas Hulot, je ne suis pas sûr qu'il soit qui va être élu. Voilà, déjà, oui.
Je parle des candidats qui ont des chances
d'être élus. Peut-être une catastrophe.
Alors, est-ce que, justement, ce n'est pas du militantisme et on oublie la politique pour inventer quelque chose de nouveau là aussi, non? Ça ne semblerait pas cohérent. Je ne sais pas, via à travers des ONG qu'on pourrait suivre.
Mais avec plaisir, suivez-nous. Mais vous avez vu le score des écologistes, là, aux dernières élections? Alors, il y a Fukushima, c'est à pisser de rire. Donc, de toute façon, c'est évident
France,
qu'il faut virer Cécile Duflot.
En Allemagne,
ça, c'est clair. Hein, voilà, c'est la preuve. C'est bien la preuve qu'il y a un vrai problème. Donc, il n'y a pas à tergiverser. Il ne faut plus Cécile Duflot. Point. Il n'y a que les résultats qui comptent. Voilà, moi, je pense à mes gosses. Je dis, elle est très gentille, mais out. Suivant, candidat suivant. On veut que ça bouge.
Le suivant, c'est qui chez les Verts?
Non, pas chez les Verts. Arrêtons avec les Verts.
C'est Europe Écologie.
Europe Écologie. Je ne sais pas qui veulent mettre. Nicolas Hulot, non, pas Eva Joly. Il faut qu'elle apprenne à parler la langue française. C'est pas qu'elle la parle mal, mais on l'entend pas quand elle parle.
Cohn-Bendit.
Mais il veut pas, Dani, il ira pas. Il a raison, il l'a dit, on le sait, hein, Franck, il n'ira pas. Donc c'est clair. Maintenant, c'est
pourquoi
lui,
il veut pas y aller là? C'est pourtant une figure de proue très forte qui.
Mais
il s'occupe
de l'Europe.
Il estime que pour être candidat au présidentiel, il faut avoir envie d'être président de la République pour recueillir des suffrages. Les gens le sentent. Bon, voilà, c'est sa conception, donc il n'y aura pas.
Simplement.
Mais ce que vous disiez, c'est que les choses doivent changer à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas les présidentielles qui vont changer la donne, malheureusement, en France. Hein. C'est la consommation, c'est les axes citoyens, c'est les ONG qui sont là pour alerter, etc. Mais malheureusement, ce qui va changer les choses, c'est la réalité. On va les changer de fait. C'est-à-dire que l'énergie va coûter de plus en plus cher. Donc les modes, les gens vont s'adapter à cette réalité économique. Mais si en même temps les politiques qui ont un rôle de guide pour l'avenir ne font pas ce boulot-là, ça va se faire au dernier moment et ça va coûter 10 fois plus cher. Et il y aura des bagarres, il y aura peut-être des guerres civiles, les gens n'accepteront pas ces changements.
C'est quand même atroce ça, d'être dépendant d'une seule source d'énergie, d'avoir toujours à payer plus finalement.
Ah ben, y a des
sans pouvoir. Moi, je vois aussi ma facture augmenter. J'ai appris que le prix du gaz augmentait très, très récemment. Je me suis dit, mais alors, quel choix on doit faire? On est pieds et poings liés.
Vous savez, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas.
Oui.
Absolument. C'est économie d'énergie, sobriété énergétique et amélioration des conditions. Parce que l'énergie, vous savez, ça se gère de différentes façons. Là, on est dans la production, on produit toujours plus. Dès qu'on a un problème, on a une petite crête de, je ne sais plus, quelques milliers de kilowatts. Allez, paf, on construit une centrale au lieu de tout simplement adapter notre consommation aux horaires, changer les horaires. Enfin, c'est une refonte complète de la société. Mais on n'en sera que mieux. Parce que, comme vous le disiez au début, ça réduira aussi les problèmes de santé. Oui, on en revient à la boucle
de l'humain.
Mais c'est
ça, c'est infini. Hein.
Voilà. Mais ça demande quand même un changement de mode de vie. Hein. Parce qu'on ne consommera pas de la même façon. Et ça, les gens ne sont pas encore prêts parce que les politiques n'ont pas donné le ton suffisant.
Alors comment on s'en sort, selon vous? Est-ce que vous avez réfléchi suffisamment pour
Franck,
aller jusqu'au...
lui, s'en sort en faisant ce qu'il fait tous les jours, tous les matins, avec son hôtel. Il faut qu'il vous parle de son hôtel, bien sûr. Et moi, je dis, on s'en sort comment? En faisant ce que je fais humblement avec les enfants, car je m'aperçois que les enfants font changer les parents. Simplement, c'est en parlant avec eux, en allant dans les écoles, finalement, ce sont eux qui amènent leurs parents à dire « mais on n'a pas réfléchi à ça, ils voient leurs enfants heureux ». Donc finalement, à travers l'enfant, on peut gagner du temps et du terrain.
Et l'enfant, un petit peu. Oui, et l'enfant devient adolescent, et qu'est-ce qu'il demande quand il est adolescent? Il veut la perspective du travail. Donc la bataille, elle va se faire, ou pour moi la bataille, elle est aussi sur, et surtout sur la formation professionnelle. C'est-à-dire que les gens, il va falloir qu'ils soient formés au nouveau métier, parce que vous pouvez instaurer tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas les gens pour le faire, ça ne marchera pas. Donc il y a la transformation industrielle de pan entier de la société, mais vous avez aussi la formation professionnelle pour que les jeunes puissent trouver des débouchés dans les nouveaux secteurs. Mais ça doit aller parallèlement avec les choix d'investissement.
Bah, on n'est pas sorti. Il n'y a personne qui.
Non, mais c'est un chantier passionnant. On est quand même optimiste, malgré tout.
Il est énorme, mais il faut qu'à un moment donné, on le commence.
Il faut des normes.
Révolution écologiste. Mais avant ça. Ou la dictature. Demandez à Franck de parler de son Solar Hotel.
Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce
Solar Hotel ? J'ai exposé du reste l'année dernière au Salon Planète Durable. Non, c'est un petit hôtel, mais simplement pour ça prouve que les gens viennent me voir, ils me disent vous êtes écolo et vous consommez bien du nucléaire, c'est éclairé. Du reste, j'ai des spots partout, ce sont des LED et tout. Non, j'achète mon électricité, énergie renouvelable. Tout le monde aujourd'hui peut aller acheter chez Enercoop ou même chez EDF de l'énergie renouvelable. Vous achetez de l'énergie produite par
les énergies renouvelables. Alors, on en parlera ici même sur ce plateau. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'il ne paraît, puisqu'on achète parfois des certificats pour faire croire que cette énergie est verte.
Ça, c'est EDF.
Bon. Ah ben voilà, donc vous voyez que
c'est pas vrai. Mais vous avez Enercoop qui fournit de la vraie énergie.
Et il y a ceux qui, effectivement, se battent pour qu'on ait de l'énergie de proximité, donc des circuits courts pour produire de l'électricité.
Exactement.
Qui arrivera chez soi. Et là, on est sûr qu'elle est 100% verte parce qu'on voit l'éolienne dans le champ du voisin.
Voilà.
On voit son panneau solaire ou sur le parking du supermarché, les panneaux solaires qui alimentent tout un quartier. Là, on est dans la vraie énergie verte. Mais ça met du temps à se déployer aussi. C'est un vrai souci. Vous connaissez les soucis qu'il y a eu avec la filière photovoltaïque, l'arrêt du rachat pendant 3 mois des unités.
On s'est battu, on a attaqué pour revenir à Écologie sans frontières. Voilà, nous avons attaqué au Conseil d'État.
Alors, nous souffle dans la salle.
Vous voyez que je ne suis pas juriste. Nous avons attaqué l'État, pour faire simple, sur ce décret qui est absolument scandaleux. L'État s'est aperçu que trop de gens voulaient installer de panneaux solaires pour faire. Enfin, trop d'entreprises, ça s'adresse aux entreprises. Donc, ils se sont dit ils ont sorti des mots terribles. Les panneaux sont chinois dans les importations. Bulles spéculatives. J'aimerais bien qu'il y ait des bulles spéculatives sur les énergies renouvelables et pas sur des choses abominables. Et donc, l'État, d'un seul coup, du jour au lendemain, a décidé unilatéralement d'arrêter d'arrêter de donner des autorisations de
connexion. On en reparlera d'ailleurs avec une personne qui représentera votre association, Ariane Vénin, qui sera sur notre plateau demain matin.
C'est elle qui a lancé
puisqu'on est dedans, on va quand même un petit peu le balayer. Le souci, c'est que l'État avait mis de côté une somme d'argent pour subventionner la mise en route de panneaux solaires. Il y a eu vraiment un engouement. C'est-à-dire qu'on a tout le monde s'est jeté sur les panneaux solaires. Ça a coûté très cher à l'État, très vite. Ce qui fait que l'État n'a pas pu suivre, donc a tout stoppé. Mais alors, a tellement stoppé que finalement, on a mis un frein à tout le développement de la filière
photovoltaïque. Vous avez 22 000 emplois qui sont en suspens dans cette filière. Ce qui prouve que le solaire, juste pour parler du photovoltaïque, avait créé quand même 22 000 emplois en 2 ans ou 3 ans. C'est quand même... des perspectives.
C'est ce qu'on va essayer un petit peu de démêler comme sac de nœuds. Mais vous voyez que là, on est sur quelque chose qui fait partie de l'engouement des Français. C'est-à-dire qu'on avait trouvé une solution, des installateurs qui se sont formés à la vitesse grand V pour pouvoir suivre l'offre, la demande même. Tous les Français s'étaient mis à consommer du panneau photovoltaïque, à avoir une source d'énergie indépendante. Et puis tout à coup, ça s'arrête.
Sarko, écolo pipo, le peuple veut du bio. Sarko, écolo pipo, le peuple veut du bio.
Voilà, donc un message qui est passé, applaudi dans la salle. Marc Jolivet, je vais revenir à vous. Dans vos spectacles, donc il y a toujours ce petit côté écolo qui ressort.
Absolument, ça transpire de ma personnalité. Je suis amoureux de ma planète.
Tout est construit sur ces réflexions-là.
Absolument pas. Non. Mais
parce
ça
qu'il y a des choses sur
de
la bourse
côtés.
Aussi.
Oui, je critique. C'est mon rôle, c'est normal. J'aime ça. le clown se doit de critiquer la société dans laquelle il est. C'est ce que je trouve passionnant dans ce métier.
Alors vous étiez sur la salle Gaveau récemment,
oui,
avec un spectacle. On va en écouter un extrait. Il y a maintenant sur votre plateau, avec vous, j'allais dire on stage, mais c'est le mot anglais, sur scène, un ours blanc. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire venir cet ours blanc? Vous dites dedans, il y a deux petits Coréens.
Des
petits Coréens.
À l'intérieur des ours blancs, oui, oui, oui. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est un acteur qui s'appelle Guy Laporte qui joue le rôle de l'ours blanc. Non, mais c'est une façon comme quand la planète meurt dans mes bras, que je rends hommage à Charlie Chaplin. Ce sont des façons détournées de parler des choses en essayant d'y mettre de l'humour ou de la poésie un petit peu. Donc j'ai imaginé qu'on m'envoyait sur la banquise pour sauver un des derniers ours blancs, et de là est découlé un spectacle.
D'accord, on écoute un extrait.
Pourquoi tu pleures? Mais oui, je crie, rendez-vous compte, cet animal, il y a encore quelques jours, il était sur la banquise, et il est là, à Montreux, ce soir. Ça doit lui faire drôle. Je sais ce qui lui manque, une femelle. Depuis le temps... Non. Je vais faire la femelle. Je vais me sacrifier. Ah oui, c'est ça l'écologie. Après, vous pourrez... Ils arrêteront de se foutre de ma gueule après ça. Mais ce soir, à Montreux, j'aimerais qu'il y ait un peu de préliminaire, quand même. Est-ce qu'on pourrait nous envoyer de la musique, quelque chose de... Non ! La biodiversité a ses limites.
Voilà, donc vous faites passer ces messages à travers cet ours blanc. Quel rôle il a pour vous ? C'est un faire-valoir ?
L'ours blanc ?
Oui.
Non, c'est un frère, c'est un partenaire. C'est un des symboles de notre planète. Et pourtant, il bouffe ses gosses. Vous vous rendez compte ?
Il bouffe ses gosses ?
Il bouffe ses gosses. Mais bon, en même temps, comme il y a trop de Thaïlandais, ça serait pas mal, vous voyez, que les ours blancs s'installent en Thaïlande.
Alors pour vous, c'est un vrai symbole. C'est le symbole que...
Heureusement qu'il ne fait pas de politique en ce moment.
Oui,
ça serait mordant. Hein,
j'aurais peu de voix. Je serais capable de faire moins que Cécile Duflot.
Bah, détrompez-vous, peut-être que justement, hein, ça marcherait mieux que vous le pensez. Hein.
Ah bah c'est sûr, oui.
Les gens attendent tellement de changements.
Oui, non, mais ça c'est évident, mais je ne suis pas fait pour ça.
Non.
Si j'étais fait pour la politique, j'en ferais.
Donc l'ours blanc, qu'est-ce que vous lui faites raconter dans vos sketchs? Vous le prenez comme symbole, déjà?
Oui, je le sauve. Ben non, mais c'est déjà fini, hein, le spectacle avec l'ours blanc, maintenant c'est fini, ils sont tous morts. Maintenant c'est le spectacle sur le dernier japonais.
Mais j'ai vu que vous allez quand même rejouer...
Oui, il y en a encore, il y en a encore,
un petit
oui,
peu,
oui, oui, oui.
L'ours blanc.
Donc, non, mais pour aller très vite, c'est un symbole, je sauve un ours blanc, je le ramène dans ma loge, il s'échappe de la loge et il veut bouffer des gens dans le public. Donc finalement, comme Claude Guéant fait des recherches ADN d'identité, il va être arrêté, je pars avec lui et nous nous envolons sur la planète du Petit Prince. Vous voyez, je l'ai fait court.
Oui, très court, mais peut-être très efficace aussi. On va parler un petit peu de biodiversité. Alors là, vous avez, comme je vous le disais hein, tout à l'heure pour les auditeurs, vous êtes habillé avec un blouson, un sweatshirt Sea Shepherd.
Absolument.
Donc vous les soutenez, c'est ça ?
Absolument, là, grâce à Franck. C'est Franck qui m'a présenté Paul Watson.
Qui est ici.
Qui est ici.
Oui,
et
oui,
donc nous faisons partie, nous serons avec Franck lundi. Pour qu'on n'ait pas parrain, partenaire, je ne sais pas comment on dit. Enfin, bien sûr, on soutient Paul, c'est absolument extraordinaire ce qu'il fait. Moi, il faut que je fasse 100 écoles pour faire le quart de ce que lui fait, de l'importance symbolique, de son engagement, de son des gens exceptionnels.
Est-ce que votre association a quelque chose à voir avec la protection de la biodiversité? Est-ce que vous avez des combats engagés dans ce domaine-là?
C'est pas la spécialité d'Écologie sans frontières, mais en même temps, on les soutient puisqu'on on les a accueillis. Le siège est chez nous, le siège de Sea Shepherd France, et on travaille ensemble. Chacun sa spécialité en réalité, mais non, on est totalement solidaires. Ils font partie de ces associations hyper utiles, des associations radicales, non violentes, mais utiles, indispensables même.
Alors
ils ont sauvé les baleines.
Oui.
Non, mais les baleines sont sauvées.
Complètement, vous pensez ?
Complètement, non. Enfin, côté Japon, bon, je crois que pour l'instant, oui. Mais
des baleines phosphorescentes.
Ouais, ouais. Et sur le thon rouge, c'est vrai que les événements libyens nous aident aussi. Voilà, c'est malheureux, mais il y a deux.
Il n'y a pas de hasard.
Il y a l'actualité. Ouais. Alors, on pourrait dire qu'il y a une malédiction sur les tueurs de la biodiversité. Mais enfin bon, non, pour être sérieux, ce sont vraiment des organisations qui sont utiles. Maintenant, il y a d'autres organisations qui sont plus globales, qui parlent de choses plus générales et qui sont aussi utiles, parce qu'il faut alerter, il faut faire des études, des contre-études, il faut être contre-pouvoir, il faut être actif, il faut enclencher des négociations.
Est-ce que pour le Kidam, devenir militant dans une association, c'est pas déjà prendre position? Est-ce que vous conseilleriez, par exemple, d'agir comme ça? Est-ce que vous accueillez des membres dans votre association Écologie sans frontières? Comment elle marche, cette association?
Elle n'a aucun financement public ni privé, déjà, aucun, jamais eu. Et nos avocats travaillent bénévolement, donc vous voyez, on est très... alors nous, c'est un peu particulier, on accepte des gens qui viennent travailler, qui viennent mettre la main à la pâte, ou nous donner un peu de sous pour acheter quelques menus matériels, voilà.
D'accord, et Rire pour la planète, comment vous la mettez en route?
Alors, Rire pour la planète, nous avons la chance d'avoir deux partenaires aujourd'hui, les ascenseurs Kone, qui sont les ascenseurs qui économisent 50% d'énergie par rapport à tous les autres ascenseurs. C'est une petite entreprise finlandaise, familiale. Donc nous les avons eux, et le GSEC, à travers Pauline Miss Poulet. Donc ce sont nos
deux
parents.
Qu'est-ce que c'est le
GSEC ? Alors le GSEC, c'est aller dans les entreprises et leur expliquer que s'ils commencent aujourd'hui, au lieu de mettre 20%, par exemple, d'économie d'énergie, s'ils en mettent 80%, ils sont gagnants pour dans 10 ans. Voilà, en gros.
C'est un groupement d'entreprises. Voilà. Il crée des pépinières d'entreprises il favorise l'économie d'énergie au sein de la pépinière.
D'accord, ok.
Voilà, sont aujourd'hui nos deux parents qui nous aident, qui aident l'association Rire pour la planète.
Donc je reviens un petit peu à ma question. Est-ce que le fait d'avoir des soutiens du Kidam, de n'importe qui, de moi-même par exemple, ça peut être
moi,
un engagement?
Oui. Ah bah, en ce qui concerne Rire pour la planète et le festival...
Est-ce que par exemple, plutôt que d'aller voter,
achetez-nous les billets, bien sûr. Il y a des billets à 25 euros pour le spectacle. J'espère qu'on va tous les vendre. Si vous n'allez pas à Malemort en Provence, donnez-le à quelqu'un ou en tous les cas, ça nous aide.
D'accord. Alors, le festival de Malemort, c'est ça, va financer quelque chose chez vous ?
Ben, ça va surtout payer tous les frais de ce que ça va engendrer. Il faut que l'association, il faut que Franck...
Il y aura plein d'associations présentes qui feront leur promo de leurs actions, etc. Donc tout ça, c'est...
D'accord, donc c'est une vraie fête hein, en même temps.
C'est une vraie fête,
sur 3 jours.
Absolument. Il y a des vins bio, il va y avoir le vin bio, il y a les bioconsommateurs qui seront là avec nous. On va manger des pizzas bio, on va boire du vin bio. Ça va être la fête.
Le vin bio, il est bon ?
Je l'ai goûté, il est excellent, vous pouvez y aller. En plus, ils sont sympas, ils nous ont prêté des verres.
Pour tout dire. Donc je rappelle, on va terminer là-dessus, hein, que vous avez un spectacle qui se met en place à travers votre association Rire pour la planète. Donc Rire pour la planète, je rappelle le principe. Une école peut vous demander de venir préparer un spectacle avec les enfants.
Absolument.
Et il faut bien sûr que ça parle de la planète, de la biodiversité. Vous les aidez à ajouter une petite note d'humour là-dedans. Vous êtes aussi l'humoriste officiel d'Écologie sans frontières. Et puis, réciproquement, hein, vous avez Franck Laval, vous conseille certainement avec son panel d'avocats. Je rappelle donc le rendez-vous que vous fixez, c'est à Malemort en Provence, 27, 28 et 29 mai. Donc c'est très bientôt. C'est le festival Rire pour la planète. C'est une première.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Eh bien, merci à vous d'être venu sur le salon Planète Durable et sur le stand de Fréquence Terre. À une très prochaine fois.